France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quatrième épisode de notre série sur les mots à la mode, très utilisés, souvent flous, voire obscurs. Aujourd'hui, le mot néolibéralisme. Dans le cas du mot néolibéralisme, nous avons affaire à un véritable paradoxe. Car lorsque s'est tenu à Paris en 1938 un colloque autour de la figure de l'intellectuel américain Walter Lippmann, colloque où s'est formulée l'idée de fonder un néolibéralisme, il s'agissait en vérité de prendre acte de la faillite des idéaux libéraux face à la crise de 1929 et face à l'avènement des régimes fascistes et nazis. Et d'envisager peut-être à l'avenir la fin de la doctrine du pur laisser-faire pour repenser certaines zones d'intervention de l'État dans la société. En d'autres termes, le néolibéralisme né dans ce contexte historique était ouvert à l'idée d'abandonner une certaine radicalité libérale. Et aujourd'hui, pourtant, le mot est souvent utilisé en su et place de celui d'ultra-libéralisme, qui désigne, lui, une application assez draconienne des principes libéraux classiques de désengagement de l'État. C'est ce paradoxe que nous allons creuser ce matin en observant notamment à quel point la mouvance néolibérale dans son devenir théorique et pratique après la Seconde Guerre mondiale a été peu monolithique. Plusieurs courants l'ont traversée et s'il est vrai que certains d'entre eux, incarnés en particulier par Milton Friedman et d'autres économistes de Chicago, ont offert un visage assez raide ou radical, il serait inexact de réduire toute l'entreprise néolibérale à ce seul visage. Bonjour Serge Audier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Côte d'Azur, auteur de livres nombreux, épais, rigoureux, qui font de vous un des très grands spécialistes dans ce pays de l'histoire de la pensée politique contemporaine. Dans les semaines qui viennent, vous allez faire paraître deux rééditions d'ouvrages déjà publiés par vous et désormais un peu repris. Les analyses que le philosophe Michel Foucault a consacrées au néolibéralisme dans ses derniers cours au Collège de France vous occupent dans un de ses livres. Et l'intégralité des échanges qui ont eu lieu au colloque Walter Lippmann de 1938 est l'objet de cet autre livre. Bonjour Vincent Valentin.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Rennes, spécialiste d'histoire de la pensée politique et juridique et un des meilleurs connaisseurs en France de l'histoire du libéralisme. Votre thèse portait déjà sur les conceptions néolibérales du droit. C'était le titre du livre que vous en aviez tiré, publié chez Economica dès 2022. Et depuis, vous n'avez cessé de travailler les réélaborations théoriques au sein de la pensée libérale contemporaine. Alors je vous propose de commencer notre réflexion ce matin en écoutant Margaret Thatcher.
Vous menez en Grande-Bretagne même une politique économique qui est une politique très énergique. Mais les résultats pour l'instant ne sont pas toujours très évidents. Est-ce que vous êtes sûr d'être sur la bonne voie ?
Absolument sûr. Quand vous avez un changement essentiel, et c'est un changement essentiel, il faut un peu de temps. Il faut du temps pour contrôler l'inflation, parce qu'il y a un décalage dans le temps entre la mise en œuvre des politiques et leur application efficace. Mais la seule autre possibilité, c'est de continuer une politique qui, dans une année, aboutirait à une augmentation de l'inflation et qui n'aboutirait jamais à ce que l'argent, le capital, soit dans le secteur productif dont nous avons besoin. C'est une nouvelle politique, c'est une politique vitale, c'est également une politique qui consiste à dire vous ne devez pas vous tourner vers le gouvernement pour remédier à tous vos maux. Nous vivons en démocratie. La démocratie consiste à ce que les gens deviennent responsables de leurs propres actions. Graduellement, je crois que nous l'emporterons. Les gens sont prêts à assumer leurs responsabilités. De plus en plus, la direction des affaires revient aux dirigeants des entreprises et les changements sont beaucoup plus importants en profondeur qu'en surface. C'est très encourageant que certains ne soient pas prêts à faire la grève, qu'ils reconnaissent qu'ils ont le devoir de s'occuper de leur famille. Nous sommes certains que tout se réussira à long terme et que nous suivons la bonne voie.
Margaret Thatcher s'exprimait là sur Antenne 2, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, le 10 mars 1980, au micro de de Laos. Je vous propose d'analyser ce qu'elle dit là en vous demandant ceci, Vincent Valentin, est-ce que, en ce qui la concerne, elle incarne un ultralibéralisme, mais en aucun cas ce que les spécialistes qualifient de néolibéralisme?
Alors, il est difficile de vous répondre, d'abord parce qu'il faudrait définir les termes, et les termes que vous avez utilisés n'ont pas chacun la même profondeur, on pourrait dire scientifique ou historique. C'est-à-dire que l'ultralibéralisme, ce n'est qu'une façon de qualifier de l'extérieur un libéralisme qu'on trouve outrancier, mais il n'y a pas de théorie qui se dit ultralibéral, il n'y a pas d'auteur ultralibéral, etc. Mais pour vous répondre, je pense que Margaret Thatcher était quand même tenue par un libéralisme dont la référence était Hayek, donc assez conservateur, et je pense pas qu'elle était ultra-libérale. Néolibérale, alors là, on va y revenir, mais il y a une histoire plus précise. Des auteurs se sont réclamés du néolibéralisme à une époque, mais le paradoxe que vous avez tout à fait soulevé dans votre introduction, c'est qu'en fait, le néolibéralisme de ces auteurs qui sont prêts dans les années 30 à remettre en cause une certaine tradition libérale de laisser-faire, ces auteurs-là ne sont pas ceux auxquels se réfère Margaret Thatcher d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un moment néolibéral dans les années 30 sur lequel on va revenir. Puis après, cette volonté d'amender face à la crise générale la tradition libérale a un peu disparu au profit d'une autre approche qui était plutôt d'approfondir le libéralisme classique, même de le radicaliser au sens propre, de revenir aux racines et en l'approfondissant.
Donc évidemment, eux-mêmes, ceux qui vont aux racines, n'assumeraient pas le mot ultralibéral, parce qu'ils considèrent qu'ils sont juste libéraux.
Ah ben ça c'est certain. Bon. C'est certain. Mais et même néolibéral, parce que vous voyez, Hayek l'a utilisé dans un texte, dans un article d'une revue américaine, il parlait de la Renaissance et il utilise le terme néolibéral, la revue Reason. Mais après, progressivement, il a arrêté d'en parler de ce terme, parce qu'il était quand même marqué par la volonté de critiquer un héritage qu'il s'agissait de reprendre. Donc pour vous répondre précisément, Thatcher, à mon avis, se réclame d'un libéralisme classique, renouvelé par des auteurs comme Hayek, principalement par Hayek, voilà, elle s'inscrit dans des auteurs qui ont renouvelé le libéralisme.
Alors, dernier point, puisqu'on parle de vocabulaire, bon, d'abord, je voudrais signaler à nos auditeurs que nous avons fait une série « Libéraux, qui êtes-vous ?» sur la pensée libérale, et le mardi 18 mars 2025, il y a donc très peu de temps, nous avons fait un épisode entier sur la pensée de Friedrich Hayek. Mais juste pour que je comprenne bien, Friedrich Hayek, donc, se revendique d'un libéralisme classique. Mais lui, vous diriez, vous êtes assez spécialiste pour vous autoriser d'un vocabulaire à vous, vous diriez quand même que c'est ultra par rapport à d'autres personnes qui se revendiqueraient aussi du libéralisme classique. C'est quand même une lecture particulièrement radicale de la non-intervention de l'État, ou c'est trop de dire ça?
Oui, alors on peut dire que c'est ultra par rapport à un libéralisme qui serait plus modéré comme celui de Raymond Aron, mais je veux dire... Qu'est-ce que signifie ultra, en fait? Par rapport à quoi? Au-dessus d'Hayek, on va dire, dans cette échelle de l'ultra, il y aurait les anarcho-capitalistes.
La mouvance libertarienne à laquelle nous avons aussi consacré un épisode.
Moi, je pense qu'Hayek, qui participe au colloque Lippmann dans les années 30, petit à petit radicalise son retour au fondement même du libéralisme, il se dit « old Whig », pour se rattacher à une tradition...
Le Whiggies, la tradition de John Locke,
De Locke, de Burke, etc. Et donc, il veut reprendre l'héritage des Lumières écossaises pour approfondir l'idée d'ordre spontané. Alors, bien sûr, il propose un libéralisme qui peut être jugé ultra, parce qu'il récuse, par exemple, totalement la notion de justice sociale. Son grand livre, La route de la servitude, explique que si l'on va vers la mise en place du welfare state, eh bien, on va vers le totalitarisme. Donc, bien sûr...
C'est assez ultra, quand même.
Bien sûr, il peut être jugé ultra, mais simplement, le terme ultra n'a pas de pertinence.
Même
on va dire scientifique,
Alors, qu'est-ce que vous voudriez peut-être ajouter quelque chose, Serge Audier, parce que ça, on est au cœur quand même de la manière dont on parle des libéraux dans le débat public. Donc, peut-être les scientifiques sont en porte-à-faux, mais c'est bien d'expliciter les raisons de ce porte-à-faux.
En tout cas, ce que cela m'inspire d'abord, dans l'allusion notamment aux familles, on connaît tous la fameuse formule « there's no such thing ». À society, la société n'existe pas, mais elle ajoute, Thatcher, il y a les familles. Et c'est très intéressant parce que ça nous ramène aussi à quelque chose chez Thatcher qui était un libéralisme très affirmé, mais aussi un conservatisme très affirmé. Et dans ses textes autobiographiques, Hayek dit qu'il a discuté avec Thatcher, qui s'est beaucoup inspiré de lui. En effet, elle avait même brandi la constitution de la liberté et elle avait dit « c'est en cela que je crois quand même ». Donc Thatcher était très profondément marqué par la route de la servitude comme l'a très bien dit Valentin. Mais en même temps, dans ces anecdotes, Hayek dit, moi, elle m'a dit, moi, je suis une Tory, je suis une conservatrice et je ne suis pas une Whig.
Oui.
Et Hayek, lui, voulait être un old Whig et pas un Tory, même s'il avait des aspects très conservateurs aussi. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une hybridation, à mon avis, chez Thatcher, dont nous ne sommes pas tout à fait sortis, on le voit aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, entre une affirmation d'un libéralisme de marché très offensif, notamment à l'époque, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui au regard de la question de l'inflation et donc du monétarisme, mais eu égard aussi à la limitation de l'État et au rôle conféré aux entreprises et aux entrepreneurs, mais aussi une très grande importance conférée à la dimension conservatrice.
Alors, sur le plan social et moral, vous voulez
dire. Le plan moral, par exemple, les familles, et notamment, il y avait une critique des familles monoparentales. Il y avait aussi toute une politique de lutte contre la délinquance, tout un discours de retour à l'ordre.
Oui.
Et c'est très intéressant parce que peut-être qu'on reparlera de Foucault, mais Foucault avait eu un brin d'ironie dans son cours de 1979 en disant « Oui, la loi et l'ordre, certains croient que c'est un slogan de vieux réac, mais c'est l'état de droit, etc. » Et Foucault, quelque part, était dans une forme de dénégation de la dimension conservatrice. Bah oui, je pense que devant son public, c'était très frappant. Mais en fait, law and order, depuis les États-Unis et en Angleterre, ça a une forte dimension de retour à l'ordre aussi moral. Par ailleurs, il faut pas oublier que Thatcher était aussi un leader populiste. Et certains auteurs gramsciens de l'époque l'ont beaucoup dit. Elle s'appuyait sur le peuple, elle faisait référence au peuple. Elle-même venait d'une famille d'épiciers. Et donc, elle jouait le petit peuple, en quelque sorte, aussi contre les élites. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans l'hybridation thatchérienne qu'on ne trouvait pas tellement au moment du colloque Lippmann, dont on reparlera, une hybridation entre conservatisme et libéralisme fortement affirmé.
Un dernier mot sur l'actualité, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs y pensent. Quand on voit un Donald Trump, on a encore plus de mal à le ranger dans des catégories toutes prêtes. Parce que si je vous suis bien, on pourrait dire sur le plan moral et social, très conservateur, très libéral classique en voulant réduire les coûts et les dépenses de l'État, mais par ailleurs mercantiliste quand il fait monter les taux de change, quand il met des taxes aux importations, etc. Et ça, les libéraux classiques, c'était pas du tout leur manière de voir le commerce international. Donc là, on a encore un nouveau spécimen.
Oui, je pense qu'on a toute une série d'hybridations successives. Mais là aussi, je repense à Margaret Thatcher, qu'on a parfois vue comme une globaliste de marché. N'oublions pas que Thatcher était une patriote, était attachée à la puissance de la Grande-Bretagne. Et quelque part, elle a fait le pari de la financiarisation aussi pour faire de Londres le pôle de cette financiarisation. Donc, il y avait un projet national, sinon nationaliste aussi, dans le néolibéralisme thatchérien.
Mais c'est pas Trump, c'est tout
c'est
à fait autre chose.
C'est pas Trump, tout à fait, on est tout à fait d'accord. Ce qui est spécifique chez Trump, d'abord, c'est évidemment la radicalité que vous avez évoquée. Et ça nous ramène à toute une série de questions de l'histoire du néolibéralisme. Certains collègues, je pense à l'historien Aurin, qui a écrit un livre dont on a beaucoup parlé, a dit c'est la fin du néolibéralisme, puisque c'est la fin du libre-échange. Et par conséquent, nous entrons dans une toute autre phase que celle du néolibéralisme. Mais ça implique de mettre en adéquation néolibéralisme et libre-échange, comme si le néolibéralisme n'avait pas d'autres dimensions que vous avez évoquées
on
vous-même, c'est-à-dire des coupes drastiques dans les budgets des administrations, etc. Donc je dirais que le moment Trump, je crois, va être un très bon test pour réfléchir à ce que moi j'ai essayé d'établir depuis longtemps, parfois avec quelques contestations, à savoir qu'il y a une vraie diversité dans l'histoire du néolibéralisme, en particulier au regard d'une chose, c'est la question des monopoles et la question d'une économie authentiquement concurrentielle. Parce qu'on a longtemps cru que le propre du néolibéralisme, c'était précisément de lutter contre les monopoles et les ententes et d'être dans la logique d'une économie purement concurrentielle. Or, d'une part, l'histoire du néolibéralisme est très contrastée sur cette affaire, c'est-à-dire que vous avez des néolibéraux qui sont pour vraiment une authentique concurrence, mais vous avez des libéraux qui disent « bon, la concurrence, c'est pas très important, s'il y a des monopoles, c'est pas très grave ». Et de fait, on est dans ce moment-là avec Trump, c'est-à-dire que vous avez l'aile la plus radicale qui a toujours dit que les monopoles, c'était pas un problème, qui est plutôt là en position hégémonique. Donc je pense que, plutôt que de dire « le néolibéralisme est terminé avec l'ère Trump », ça peut être un très bon test pour réfléchir justement à l'hétérogénéité des libéraux et des néolibéraux.
Quand c'est trop hétérogène, un concept, ça s'effiloche aussi. Si tout le monde est rangeable dans le néolibéralisme...
C'est pour ça qu'il faut faire des distinctions.
Ça ne veut plus dire grand-chose.
C'est pour ça qu'il faut faire des distinctions importantes. On peut essayer de fixer des bases communes, la liberté des prix, la valorisation des logiques de marché. Mais sur ces bases, il y a beaucoup de distinctions à faire.
Mais pas le libre-échange pour Trump. Et là, je voudrais vous entendre aussi, Vincent Valentin. Trump, il invente quand même une nouvelle formule où il y a des éléments libéraux classiques et puis des éléments nouveaux comme le protectionnisme, quoi, qui n'est pas du tout le cœur de la pensée libérale classique.
C'est très compliqué d'interpréter doctrinalement l'action de Trump. D'abord, on n'est pas certain qu'il soit lui-même très structuré. Donc, lui prêter l'affiliation à une doctrine pose déjà un problème de principe. Et moi, je vois plus Trump comme l'expression d'une espèce de retour du refoulé conservateur depuis des décennies, qui récuse finalement toutes les politiques démocrates dans tous les sens. Donc, ça va concerner le wokisme pour les politiques anti-discrimination, ce qui est vu comme des effets du welfare state. Ça va concerner... et également une certaine politique étrangère d'aide à des associations normandes, etc. Bref, oui. Un retour du refoulé. Et donc, c'est une intégration, et c'est le problème d'ailleurs du néolibéralisme également en France. C'est-à-dire que c'est une branche de la droite. Hein, pour moi, le libéralisme économique est utilisé par des mouvements politiques qui sont bien ancrés à droite, on va dire, comme Trump. Et donc, ils prennent dans l'héritage doctrinal, théorique du libéralisme ou du néolibéralisme, ce qui les arrange. Mais il me semble qu'on peut pas les rattacher ce mouvement-là exactement. Alors bien sûr, c'est une galaxie totalement hétérogène, le néolibéralisme. D'ailleurs, précisément, on sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que l'on parle des libéraux aujourd'hui ? Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, enfin, ça fait 40 ans, à mon avis, qu'aucun auteur ne se dit néolibéral. Donc c'est toujours une reconstruction d'extérieur. Et si on se rattache aux néolibéraux des années 30, alors là, c'est tout à fait autre chose. On voit pas du tout le lien entre Trump et ces auteurs-là. On va y revenir. Donc... voilà, mais il y a autour de Trump la galaxie libertarienne de Peter Thiel, donc des libéraux en même temps très conservateurs. Bref, c'est un beau foutoir, une auberge espagnole de la pensée de droite, on va dire, dans laquelle une part de libéralisme existe.
Alors je vous propose maintenant qu'on revienne en arrière, et notamment à ce fameux colloque Walter Lippmann de 1938. C'est très étonnant. Nous allons entendre un extrait du livre de Lippmann, La Cité Libre, qui a été publié un an avant, en 1937. Et on a plutôt l'impression, alors même que ça va forger la notion de néolibéralisme, que c'est un peu un procès fait aux insuffisances du libéralisme jusqu'à présent, au regard des années 30. Écoutez.
Les défauts que les économistes appelaient friction et perturbation et les victimes, injustice et misère, étaient trop nombreux pour qu'on pût les supprimer en enseignant la résignation aux masses. Ils auraient dû être le premier souci des libéraux, le principal objet de leur recherche, le soin constant de leur politique. La négligence accumulée à l'égard des abus finit par compromettre le respect dû au système. À partir de 1870, les classes ouvrières et les penseurs dirigeants de tous les pays finissent par se persuader que l'ordre existant est radicalement injuste et intolérable. Cette conviction était humainement justifiée. Cependant, les libéraux avaient eu raison d'affirmer à l'origine que les abus étaient accidentels et non fondamentaux. Ils avaient eu raison, parce que l'économie de la division du travail réglée sur des marchés est un mode de production, tout comme l'agriculture sédentaire ou le nomadisme pastoral. Ce qu'il faut réformer, c'est l'ordre social. Telle est la vérité que les premiers libéraux avaient saisie lorsqu'ils critiquaient sans relâche les lois, les institutions et la politique de leur époque. Les derniers libéraux l'ignorèrent et devinrent conformistes et apologistes. Les collectivistes prouvent qu'ils ne l'ont pas discerné lorsque, tout en croyant frapper les injustices sociales, ils frappent le marché libre qui règle la division du travail. Mais la vérité triomphera. Et le libéralisme renaîtra.
Eh bien, quelle critique, quelle autocritique. Évidemment, Walter Lippmann appelle collectivistes ceux qui ne sont pas libéraux et ne leur fait pas de cadeaux à eux non plus. Mais enfin, Serge Audier, vous qui connaissez très bien tout ce qui s'est dit à ce colloque Lippmann, Lippmann lui-même et d'autres font un vrai procès, presque à une bêtise dans l'analyse sociale des libéraux du début du XXe siècle.
Alors peut-être il faut dire un mot d'abord sur Lippmann et après sur le colloque.
Je vous écoute.
Lippmann, la fin du texte le dit, c'est un libéral, ou en tout cas il veut rénover le libéralisme. Mais il veut le rénover. Et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui vient plutôt de la gauche, hein, qui vient du socialisme. Après, c'est quelqu'un qui a été un des théoriciens du progressisme et il a posé certaines bases programmatiques, en tout cas dans les grandes lignes de ce que sera le New Deal. Il a soutenu Roosevelt. Oui. Et après, il s'est fâché avec Roosevelt, notamment quand Roosevelt voulait toucher à la Constitution et aussi parce qu'il était inquiet par la montée des dirigismes et de ce qu'il appelait les collectivismes. Mais c'est quelqu'un qui, au départ, vient de la gauche. Hein. Il ne faut jamais l'oublier quand même.
En plus, en Amérique, liberals, ça veut dire gauche.
Oui, en plus.
Et en plus, ça s'ajoute, ce problème. Oui.
En plus, mais si vous voulez, d'autre part, du point de vue doctrinal, c'est toute sa vie, il a dit « moi, je suis keynésien ». Il admirait Keynes. Alors, s'il y a quelqu'un qui est la bête noire des néolibéraux, c'est Keynes. Alors, c'est très intéressant parce que c'est la préface américaine, mais qui n'est pas dans la version française à la Cité Libre, The Good Society. Et là, il fait ses dédicaces. Alors, il fait la dédicace, on en a parlé, à Hayek et Mises, qui ont critiqué la bureaucratie, les dangers du dirigisme. Mais il rend un hommage fervent à Keynes. Et je le cite, qui a démontré au peuple libre que l'économie pouvait être régulée sans dictature. Donc vous avez un hybride. Keynes, ouais. Lippmann, c'est un penseur hybride qui mobilise des éléments de l'école autrichienne et de la critique de la bureaucratie et de l'État. C'est quelqu'un qui est persuadé que les sociétés sont des sociétés d'interdépendance, hein, que ce soit à l'intérieur des pays. C'est pour ça aussi que le patron de droit divin, pour lui, c'est fini. Il le dit dès les années 30. Vous pouvez pas foutre à la porte des millions de gens ou casser une économie, donc les patrons eux-mêmes ont des responsabilités, et ils pensent aussi, parce que c'est un théoricien des relations internationales, que l'âge est à la division du travail mondial, et il est très inquiet, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, il est très inquiet par la montée de ce qu'on appellera les nationalismes économiques, et il pense que ça mène à la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a cette vision globale. Mais donc, si vous voulez, c'est quelqu'un d'assez hybride, où d'une part, il veut réhabiliter quand même les mécanismes de marché et l'importance de la division du travail, d'autre part, il propose ce qu'il appelle un agenda du libéralisme. La formule vient de Keynes, hein, d'un texte de Keynes qui s'appelle « La fin du laisser-faire ». Et dans « La fin du laisser-faire », Keynes dit qu'il faut un agenda de l'État. Il y a des choses qui sont à faire et des choses qui ne sont pas à faire. Et parmi les choses à faire, il y a un rôle de dépenses publiques, un rôle de protection sociale, etc. Et c'est un peu ce que dit Lippmann dans une perspective certes libérale, mais que l'État a des tâches très importantes en termes d'infrastructures, en termes d'assurance sociale, même s'il dit qu'il faut ne pas faire de la charité, comme il dit, et qu'il faut aussi éduquer et former les personnes au chômage. Mais enfin, c'est quand même une perspective extrêmement hybride. Pour ce qui est du colloque Lippmann, il y a une ambiguïté, parce qu'il a été lancé par des gens qui, on le sait maintenant, détestaient le Front Populaire et voulaient mener une offensive contre le Front Populaire, surtout contre les legs du Front Populaire.
Il y avait un combat politique.
Il y avait un combat politique. Et on le sait par les correspondances, Lippmann n'était pas très chaud pour venir. Mmh. Et on sait même maintenant par un mémoire d'un auteur du colloque Lippmann, que certains voulaient faire un manifeste anti-Front Populaire et que Lippmann et d'autres étaient tout à fait contre. Ce que je veux dire, c'est que le colloque Lippmann, c'est aussi un sacré foutoir, même s'ils parviendront à un accord. Je dis d'abord
Mais intellectuellement, du coup, c'est quand même vraiment passionnant.
Ben oui, mais ils parviendront à un accord, c'est-à-dire l'accord, c'est finalement l'importance des mécanismes des prix, le fait qu'il faut faire avoir une puissance publique qui organise les mécanismes de marché pour qu'ils ne mènent pas à des monopoles. Mais d'autre part, la légitimation de toute une série de dépenses publiques en matière de guerre, puisque la guerre approchait, en matière de recherche scientifique, en matière d'assurance sociale, certes dans un budget clair, en équilibre, etc. Donc ce ne sont pas des keynésiens, justement, du point de vue de l'accord final. Mais vous voyez, il y a une espèce de point d'ambiguïté dans le colloque Lippmann qui est très remarquable. Et d'ailleurs, c'est très intéressant au regard des mots. Parce que ça s'appelle néolibéralisme, mais ça aurait pu ne jamais s'appeler néolibéralisme. Le promoteur du colloque, Louis Rougier, parlait de libéralisme constructeur, c'est-à-dire qu'il fallait construire le marché, mais il fallait aussi construire des interventions à la fois en amont et en aval. Oui. Et donc, il y avait l'idée d'une construction. Rostov, qui est un des grandes figures de ce courant, parle d'interventionnisme libéral. Vous en avez un autre qui s'appelle Marliot, qui est très marqué par une tradition aussi catholique et sociale, qui parle de libéralisme social. Vous avez Jacques Rueff, qui pourtant était plutôt un homme de droite, hein, attaché au mécanisme de marché, qui voulait qu'on parle de libéralisme de gauche. Alors, il n'était pas de gauche, mais il voulait séduire les syndicats, il voulait trouver et prouver que le libéralisme, finalement, n'était pas contre les classes populaires. Vous voyez, donc c'est un libéralisme, je dirais, pour résumer, de crise. C'est un libéralisme qui essaye de répondre à des problèmes. Et c'est pour ça qu'un des mots clés du colloque Liebman, c'est révision. Révision du libéralisme, de même qu'il y a eu la révision du marxisme, vous savez, la grande querelle depuis Bernstein jusqu'au début des années 20, puis après il y a eu le néo-socialisme, hein, le néo-socialisme qui était un courant très important dans les années 30, et bien de même que les néo-socialistes ont voulu réviser la doctrine, par exemple en accordant plus d'importance aux classes moyennes, à l'État, etc., de même les néolibéraux veulent réviser la doctrine. Mais dans ce consensus, il y a des dissensus. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Rostov est pas content du résultat final, et surtout il dit que des gens comme Hayek et Mises sont des gens qui ont mené à la catastrophe.
Alors justement,
à l'inverse,
si ça vous
justement
pas, oui,
Hayek et Mises, on dit qu'on sait par là, ça, son épouse, elle a fait une autobiographie, que Mises n'aimait pas du tout ce qu'écrivait Liebman. Donc vous avez un consensus, mais souvent les consensus, ça cache des dissensus. Et un peu l'histoire conflictuelle du néolibéralisme se trouve dans ces non-dits, en quelque sorte, du colloque Liebman. Pardon, je vous ai...
Non, je vous en prie, c'est très complet du coup, et on voit bien que il n'y a pas une unité évidente, il y a des préoccupations évidentes. Et donc, dans ceux que vous avez cités, bon, je crois avoir compris que un Allemand, il est allemand, Alexander Rostov, n'est-ce
Absolument.
Pas bon, et on parlera tout à l'heure de ce mouvement allemand qui s'appelle l'ordolibéralisme. Là, on sent qu'ils sont très critiques, un peu comme Liebman a envie qu'on le soit. Vous citez vous-même... une phrase de Rostov. Nous autres, nous cherchons la responsabilité du déclin du libéralisme dans le libéralisme lui-même, dit-il au colloque Liebman en 38, et par conséquent, nous cherchons l'issue dans un renouvellement fondamental du libéralisme. Mais ma question à vous, qui connaissez bien l'école autrichienne-allemande, Vincent Valentin, des gens comme von Mises, dont vous avez parlé, Serge Ollier, et Hayek, est-ce qu'ils s'opposent, je parle du fond, pas forcément de l'accord formel, est-ce qu'ils sont hostiles à ce procès radical fait au libéralisme dans les années 30? Ou au contraire, y a-t-il une inquiétude même dans cette école autrichienne?
Alors, il y a une inquiétude parce que, faut voir le contexte, hein, la tentation totalitaire de gauche et de droite l'emporte sur le libéralisme qui, à ce moment-là, est une idéologie totalement ringarde, qui semble ne pas pouvoir affronter les défis du temps, de la modernité, et pour des raisons profondes, pas simplement parce qu'il y a un risque de guerre. Donc, on voit dans les écrits d'Hayek, notamment, la nécessité de repenser, de faire renaître le libéralisme, et donc de tout reprendre à plat. Mais, en revanche, l'idée que l'on va améliorer le libéralisme en faisant autre chose que du libéralisme, il l'écarte. Mais par exemple, Mises taxait les ordolibéraux de demi-socialistes. Et donc...
Sympa l'ambiance.
Oui, oui, non, mais en fait, c'est ça. Ce qui est très intéressant pour compléter, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'avait dit Serge Audier, mais ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que ce colloque Liebman, eh bien, c'est un beau bordel. Sont réunis des gens qui ne pensent pas de la même façon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on va redécouvrir tout ça dans les années 2000, on va y voir le foyer d'un projet politique délibéré, très clair, qui ensuite se serait répandu à travers la construction européenne ou les politiques dites néolibérales, alors qu'en fait, c'est plus le moment d'une réflexion pleine de dissensus que l'organisation d'une pensée très claire. Donc, les Autrichiens, Hayek, Mises, sont très critiques à l'égard de ce qui pourrait devenir un demi-interventionniste.
Et ils vont, si j'ai bien compris, eux, juste après la guerre, fonder la Société du Mont Pèlerin. Est-ce que vous pourriez en dire un mot pour qu'on comprenne un peu la différence, justement, entre ces associations de chercheurs et d'économistes par rapport à la foule de gens très différents qui étaient au colloque Liebman ?
Alors, donc c'est en 1947 hein, que le colloque Lippmann est fondé, lancé par Hayek, mais aussi avec un autre Allemand qui est Röpke. Alors, c'est très intéressant parce que ça dit aussi les lignes à la fois de convergence et de divergence. Je veux dire par là que donc Hayek prend le lead, si j'ose dire. Beaucoup de Français qui étaient lors du présents au colloque Lippmann, notamment des polytechniciens, des technocrates, sont évacués. Il y a beaucoup plus d'Américains, beaucoup plus de figures donc liées à l'école aussi autrichienne. Hayek a quand même conservé quelque chose du colloque Lippmann et du moment Lippmann. Ah. C'est que le laisser-faire au sens de la dogmatique métaphysique du laisser-faire, ça c'est fini. Et il reconnaît qu'il faut un framework, un cadre pour la concurrence. C'est un moment, si vous voulez, de rapprochement tout de même avec les Allemands, notamment ceux dont on va parler, les ordo-libéraux. Mais là aussi, c'est un rapprochement ambigu. C'est-à-dire que Hayek veut fédérer. C'est un grand fédérateur, lui aussi, comme Rougier. Alors que Mises est un caractériel, Hayek est un diplomate. Donc, il veut fédérer des libéraux de diverses obédiences, tout en étant conscient qu'ils vont contre le vent. C'est-à-dire que les tendances sont au dirigisme, les tendances sont à l'étatisme. Et la différence, je dirais, c'est que quand vous voyez ce qu'on appelle le Statement of Ames, qui était la charte de la Société du Mont-Pèlerin, c'est pas le même contenu que la charte du colloque Lippmann. Le colloque Lippmann, il y avait une charte en deux temps, donc liberté des prix, cadre pour faire une économie authentiquement concurrentielle et dépenses publiques pour toute une série d'éléments dans un budget en équilibre. Les dépenses publiques, elles disparaissent très largement du Statement of Ames.
Donc qu'est-ce qui reste, le droit,
alors, la rule of law, donc oui. le règne de la loi.
Qui doit passer au-dessus de la souveraineté étatique, mais c'est un...
C'est pas dit aussi clairement, mais ça a certainement ces implications-là, mais c'est pas dit aussi clairement. Donc le règne de la loi, l'importance des mécanismes de marché, aussi une grande importance donnée à la dignité de l'individu versus le communisme et le totalitarisme. Mais si vous voulez, c'est plutôt un agenda qui est beaucoup plus hayekien, au sens où Hayek, c'est quand même la loi, la rule of law, et les mécanismes spontanés du marché.
Voilà, l'ordre spontané qui doit être respecté.
Alors cela dit,
oui,
pardon, lors du colloque Lippmann, on retrouve aussi des engueulades extrêmement intéressantes. On revient à un point capital dans l'histoire du néolibéralisme avec Thatcher, les syndicats. Elle dit oui, maintenant les syndicats se couchent, parce que on sait que Thatcher avait fait un bras de fer terrible avec les syndicats. Et alors, vous avez Hayek, mais aussi des gens de l'école de Chicago, qui disent qu'il y a un point décisif pour implémenter une économie de marché et un État libre tel qu'ils conçoivent, c'est la lutte contre les syndicats. Et vous avez des pôles qui sont pas du tout pro-syndicaux, mais qui sont quand même un peu plus dans une tradition de consensus, etc., les pôles allemands, les pôles suisses, qui ne veulent pas aller si loin dans cette espèce de bras de fer, si vous voulez, avec les syndicats. Vous avez d'autres points de clivage très intéressants sur la religion. Alors, vous avez un certain nombre de partisans qui veulent rendre indissociable le libéralisme de la religion. Notamment, c'est les Allemands. Heiken est très attaché à cela. Hayek a une vision plus instrumentale, sans doute, de la religion, mais c'est aussi une de ses stratégies pour réaffirmer le libéralisme. Il ne faut pas que le libéralisme soit un truc laïcard contre la religion, il faut plutôt les réconcilier. Et puis, vous avez des gens comme Karl Popper ou Knight, qui est une figure de l'école de Chicago, qui disent, attention, non, la religion, on ne va pas réinstaller la religion dans le libéralisme, c'est très dangereux. Donc vous voyez que ce thème, notamment de l'articulation entre libéralisme et religion, qui sera extrêmement important, évidemment, dans l'histoire des pensées conservatrices et de droite, hein, on en a déjà parlé, il est déjà présent, tout comme la controverse sur les syndicats.
Ça, c'est au colloque Lippmann.
Non, ça, c'est
la Société du Mont-Pèlerin.
C'est très intéressant, parce que souvent, on présente la Société du Mont-Pèlerin, là, comme un monolithe. Et ben, même la Société du Mont-Pèlerin, c'est pas un monolithe.
C'est très intéressant.
C'est vraiment un lieu de convergence et de divergence. Et juste un dernier point, il y a une personne qui refuse de signer le Statement of Ames, qui est quand même un futur prix Nobel français, qui se veut fidèle à l'esprit du colloque Walter Lippmann, qui est Maurice Allais. Et Maurice Allais ne veut pas signer le Statement of Ames, notamment parce que il sacralise la propriété privée. Et Allais considère que ça va trop loin. Et il écrit une longue lettre à Hayek en lui disant, bah, dis donc, non, je ne suis pas d'accord sur ce point, et il faut plutôt rénover le libéralisme, etc. Et c'est très amusant quand on lit les correspondances. Hayek écrit à un autre figure suisse qui est Rappard, et dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce Hayek? Moi, je connais pas bien la psychologie des Français. Est-ce qu'on le drop? Est-ce qu'on le jette? Et on sent bien que là, il y a un souci parce que ce Français qui se veut fidèle à cela, eh bien, pose un problème. Donc, c'est très intéressant de voir que des lignes quand même différentes, elles sont pas irrémédiablement divergentes. Il y a des accords profonds sur le mécanisme des prix, le marché, les dangers de l'étatisme et du dirigisme. Et par-delà ces consensus, il y a des vrais dissensus à mon avis.
Alors, il y a une chose que je comprends mal, Vincent Valentin, c'est que, donc il y a du monde hein, chez les Hayekiens, même à l'Associé du Mont-Pèlerin, Serge Audier vient de nous l'expliquer, et il y a notamment des ordo-libéraux allemands, des gens comme Wilhelm Röpke, des gens comme Walter Eucken que vous avez cité. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire ordo. Pourquoi ? Parce que j'avais cru comprendre que chez Hayek, les bons ordres sont spontanés, c'est l'opposition entre taxis et nomos, je ne me trompe pas, nomos c'est spontané, taxis c'est imposé de manière constructiviste par l'État et c'est à critiquer, voire à mettre de côté, il faut des ordres spontanés. Qu'est-ce que c'est ordo pour les libéraux allemands ? Quelle sorte d'ordre veulent-ils ? C'est un ordre uniquement juridique, fabriqué par la société, sans beaucoup d'interventionnisme d'État, car dans les pays anglo-saxons, le droit n'est pas fait uniquement par l'État. Ou bien, quand même, il y a un peu de taxis, et pas seulement du nomos, dans l'ordre des ordo-libéraux.
Alors, l'ordolibéralisme est né en Allemagne dans un contexte de crise aiguë, non seulement la crise de la République et puis après le Troisième Reich. Et donc, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas s'appuyer sur une espèce d'évolution spontanée de l'ordre social vers un libéralisme qui s'affinerait naturellement, si vous voulez. C'est pas non plus la situation que les physiocrates rencontrent lorsqu'ils demandent au roi de France de réformer l'ancien régime progressivement pour laisser faire, etc. Donc il y a une situation de crise dans laquelle des auteurs qui sont très attachés au principe de concurrence, au principe de l'économie de marché, considèrent qu'il faut effectivement instituer le libéralisme. Donc il faut créer un ordre. Il faut inscrire le libéralisme économique dans une constitution politique. C'est peut-être là la véritable nouveauté, pas dans le fait que le libéralisme a besoin d'une structure juridique, ça c'est parfaitement banal, parfaitement classique, mais plutôt dans le fait que voilà l'ordre économique va être posé par un acte de souveraineté politique. Donc c'est ça, à mon avis, la vraie originalité.
Et ça c'est au-delà de ce que Hayek avait imaginera encore.
Oui,
comme intervention politique.
Alors, les rapports entre Hayek et les ordolibéraux ont beaucoup évolué dans l'histoire. Ils sont parfois proches, parfois éloignés, parfois ils participent à leurs travaux, parfois ils les critiquent. Mais en fait, je pense que on a un peu exagéré, si vous voulez, l'originalité de l'ordolibéralisme, qui, à mon avis, est plus une originalité historique de stratégie politique que véritablement intellectuelle. Parce que effectivement, alors ils s'inscrivent dans la pensée de Lippmann, dans la mesure où effectivement ils remettent en cause l'idée que la main invisible n'aurait que des effets bénéfiques. Donc ils mettent en place des principes non pas simplement constitutifs de l'économie de marché, mais régulateurs de l'économie de marché. Vous voyez, ils admettent qu'il faille s'opposer aux effets de monopole, aux effets de cartel. Ils admettent le principe d'une distorsion de concurrence. Ils admettent le principe d'une action sociale. Ils admettent le principe d'une redistribution. Mais quand même, tout ça, toute cette structure est une structure autour de l'économie de marché. Et à mon avis, ils constitutionnalisent le laisser-faire, parce que, alors, on va peut-être y revenir, mais il y a beaucoup de fantasmes autour de laisser-faire. Laisser-faire, ça n'a jamais été l'anarchie. Le laisser-faire, c'est...
Il y a toujours un état de droit.
Il y a une structure juridique, l'État ne disparaît pas, mais il laisse faire les acteurs économiques dans leur sphère. Et donc, l'ordolibéralisme, c'est de créer une structure politique, juridique, qui mette le marché à l'abri d'interventions indues de la part du politique. Avec un contrôle, ce que j'ai évoqué, les cartels, etc. Puisque ce qu'il partage avec Lippmann, c'est l'idée, et ça peut-être que Hayek est plus critique, c'est l'idée que le libéralisme peut produire sa propre destruction, si vous voulez. Et donc que l'État doit prendre en charge une sorte d'indemnisation des victimes du mouvement de l'histoire en faveur de l'accomplissement du libéralisme.
Ah oui.
Ça, c'est très clairement dit par Lippmann dans La Cité libre.
Ils connaissent les...
Oui, et puis alors, il y a une filiation... Alors...
Les problèmes que pose le...
Oui, c'est-à-dire que c'est parfaitement admis par Lippmann ou par les ordo-libéraux. Le mouvement concurrentiel a des effets pervers, et donc l'État peut contrôler cela. Donc, c'est pour cela, et on revient à votre introduction tout à l'heure, que le néolibéralisme peut désigner un vrai retour critique sur la tradition libérale classique ou, au contraire, un approfondissement avec les Hayekiens.
Alors maintenant, je crois qu'il faut qu'on aille vers les économistes de Chicago, qui est une ligne qui semble, j'ai bien compris que personne n'est totalement pour le laisser faire dans, parmi les libéraux, mais enfin, là, on a quand même, alors peut-être est-ce une caricature, vous m'expliquerez, chez Milton Friedman et beaucoup de ses amis, l'impression vraiment de quelque chose où il y a le moins possible d'intervention sociale de l'État. D'abord, il faudrait préciser que c'est pas la même génération. Hein. Friedman, okay. Il est né en 1912, alors que des gens comme Mises ou Hayek sont nés dans les années 1880 pour Mises, 90 pour Hayek. Donc, c'est quand même des gens d'une autre génération. Et pour Milton Friedman, on a essayé d'être juste, nous, avec philosophie. C'est-à-dire qu'on a d'abord un extrait sonore théorique pour faire droit à ses arguments, peut-être les mieux formulés, et puis après un son politiquement plus problématique. On commence par le théorique et l'explication friedmanienne de sa position.
Le Chili est un cas où un régime militaire dirigé par Pinochet était disposé à faire évoluer l'organisation de l'économie d'une organisation descendante vers une organisation ascendante. Et dans ce processus, un groupe de personnes qui avaient été formées à l'Université de Chicago dans le département d'économie, et que l'on a appelé les Chicago Boys, ont joué un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre des réformes économiques. Le véritable miracle au Chili n'a pas été que ces réformes économiques ont si bien fonctionné. Le vrai miracle est qu'une junte militaire était prête à le laisser faire. Donc je n'étais pas un conseiller de Pinochet, je n'étais pas un conseiller du gouvernement chilien, mais je suis plus que disposé à partager le mérite du travail extraordinaire que nos étudiants ont accompli là-bas.
Pardon, il y a une inversion. Ça, c'est le propos politique sur Pinochet et sur le Chili. Friedman validant le fait qu'il ait pu participer à la politique économique de Pinochet, saluant même une certaine audace là-bas. Et maintenant, l'aspect plus théorique, un propos de Milton Littman de janvier 1980 sur PBS.
The great myth that was created by the war.
Le grand mythe créé par la guerre est celui selon lequel le gouvernement était efficace. Et il l'était, pour des objectifs guerriers, au moins en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cela n'a pas été aussi efficace en Allemagne et dans les pays perdants. Mais pourquoi était-ce un mythe ? C'était un mythe parce que c'est une chose pour le gouvernement de planifier et de contrôler une économie avec un seul objectif primordial, gagner la guerre. C'est une chose très différente pour le gouvernement de contrôler l'économie en tenant compte des goûts d'un très grand nombre de personnes dans un monde complexe. Et je ne peux pas changer les opinions des gens à propos de ce mythe, mais l'expérience change leurs opinions. Y a-t-il quelqu'un, quelque part aujourd'hui, qui croit que le gouvernement est un moyen efficace de gérer une entreprise industrielle ?
Milton Friedman, non, sous tous ces aspects, je vous laisse commenter Vincent Valentin.
Sur l'aspect théorique, c'est assez banal. Il faut dire que Friedman n'est pas le plus extrémiste, hein, puisqu'il reconnaît un rôle à l'État, par exemple le fait d'instaurer une banque centrale qui gère la monnaie étant considérée comme un bien public, ça le situe presque d'un côté interventionniste par rapport aux théoriciens de la free banking qui voudraient que tout soit absolument privatisé, qu'il n'y ait pas de banque centrale, etc. L'aspect le plus polémique, c'est peut-être sur le Chili. Alors, le texte en lui-même, enfin l'extrait qu'on vient d'entendre, aurait pu être pire parce qu'en fait, ce qu'il dit est ce qu'il dit est presque acceptable. Quoi. Il y a une junte militaire, quel miracle, elle veut faire du libéralisme. Alors on y va parce que ça va améliorer la société, etc. Il y a des éléments qui sont plus accablants.
Il faut profiter de cette audace, peu importe ce qu'ils font politiquement. Voilà. S'ils ont de l'audace, vous trouvez ça que c'est encore modéré.
Mais par rapport à ce que l'on peut évoquer maintenant, il y a des choses plus accablantes. Ouais. D'abord, je crois que la Société du Mont-Pèlerin s'est réunie dans le Chili de Pinochet, je parle sous le contrôle de Serge Audier. À cette occasion, Hayek donne un entretien à un journal chilien dans lequel il dit qu'il préfère la dictature libérale à la démocratie socialiste.
Hayek.
Il faut choisir Hayek. Alors évidemment, socialiste pour lui à l'époque, c'est l'Union soviétique, hein, plutôt. Donc ce qu'il veut veut dire, c'est qu'il préfère une dictature qui impose la liberté, finalement, et qui garantit l'efficacité du marché, plutôt qu'une démocratie qui soumettrait la société à un diktat politique. Bon, ben enfin, le dire dans une enceinte à la Sorbonne et le dire à un journal sous Pinochet, c'est quand même deux choses différentes. Puis, dernier point, pour ce qui est d'accabler quand même une sorte de grande compréhension pour Pinochet dans le camp libéral, c'est le fait que Margaret Thatcher, lorsque Pinochet est l'objet d'une action en justice et ne peut pas retourner au Chili, et donc il est coincé d'abord en Espagne, puis en Angleterre, eh bien Margaret Thatcher va lui rendre visite et rend hommage. Alors, pourquoi elle lui rend hommage? Elle rend hommage à son combat pendant ce qui est vécu par elle comme la guerre froide, son combat contre l'idée que le Chili aurait pu devenir communiste. Et donc là, il y a une cécité ou une convergence de points de vue qui rattache un peu ce que disait Saint-Jodine. Thatcher a une forme de conservatisme, peut-être plus de droite qu'authentiquement libéral, qui fait que finalement, un dictateur qui nous libère, qui nous sauve du communisme, on peut lui pardonner beaucoup de choses.
Mais économiquement, le Chili de Pinochet a-t-il permis une meilleure allocation des ressources, beaucoup de richesses, moins d'inflation, de la croissance, etc., etc. Ou bien, quel est le bilan économique de Pinochet?
Les Chicago Boys vous disent que oui. J'ai assisté à des conférences dans lesquelles on vantait le système des retraites, enfin l'efficacité de ce qui avait été mis en place par les Chicago Boys. Mais il y a une critique, évidemment, de ces politiques d'un point de vue plus socialiste, mettant en avant les effets sur la pauvreté, etc. Mais je pense, si vous voulez, que pour Friedman ou Hayek, eh bien, il s'agit de limiter la casse, mais avec un grand aveuglement sur ce qu'est réellement la dictature de Pinochet.
C'est peut-être de là que ça vient, et donc c'est pas totalement infondé l'idée que, à ce stade, nous avons affaire à des ultra-libéraux. Ça renvoie peut-être ce mot. J'ai bien compris, il n'est pas scientifique, le mot ultra. Ultralibéralisme, mais il renvoie à la cécité dont vous parlez, c'est-à-dire le dogme libéral classique est bien appliqué, peu importe la casse, non seulement sociale, mais morale et juridique, parce que quand même Pinochet, c'est des privations de liberté pour le droit, c'est un petit problème.
Oui,
aussi,
mais
quand
c'est-à-dire qu'en fait, Friedman s'est rendu à Hong Kong aussi. Il était fasciné par ces expériences-là de capitalisme en démocratie, si vous voulez. Donc, parce que ce qui le compte le plus pour ces auteurs-là, c'est que la liberté se déploie à l'abri de l'économie de marché, des principes de concurrence, à l'abri du pouvoir politique, si vous voulez. Et donc, il y a sans doute, oui, une sorte d'incapacité à sentir ce qui manque dans un ordre politique lorsque la liberté politique disparaît.
Serge Audier.
Peut-être commencer par la deuxième question, faute de temps, et après, si on a le temps, on reprendra la première. Oui,
les textes. La deuxième question, c'est quoi?
La deuxième sur le Chili.
Sur le Chili, oui, bien sûr.
Le scandale était absolu. Quand il a eu le prix Nobel, il y a eu des manifestations.
Milton Friedman.
Il a eu le prix Nobel. Et il est clair que Milton Friedman a donné des conseils et surtout ses élèves. Alors, il a essayé de trouver une ligne de justification qu'on peut évidemment absolument ne pas suivre et je ne la suis absolument pas, qui était de dire, écoutez, moi, je conseille tout le monde, toute personne. Ça peut être Deng Xiaoping en Chine, ça peut être, etc. Et d'autre part, il a dit que les mécanismes de marché à terme aussi engendraient la démocratie. Ce qui est intéressant, c'est pas du tout pour le justifier, parce que je ne suis pas d'accord avec ce point-là, mais c'est moins hard, si j'ose dire, que les justifications de Hayek, qui lui a justifié frontalement la dictature, en disant c'est mieux une dictature qui protège la liberté que le socialisme, qui est un dirigisme épouvantable.
Ça, je rappelle qu'il a écrit La route de la servitude en 1944. Il ne voit pas de servitude, là.
Non, il ne voit pas de servitude. C'est évidemment un scandale absolu de mon point de vue, et je pense dans l'absolu, mais en tout état de cause, non. Parce qu'il pense qu'un état de droit protège mieux les individus, l'état de droit tel qu'il l'imagine être au Chili, protège mieux les individus qu'un socialisme bureaucratique et dirigiste. Le premier point, est, me semble là, c'est-à-dire que Friedman va moins loin que Hayek dans le scandale. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça dit des choses sur l'évolution du néolibéralisme. Dans les années 60, si on revient à Lippmann défend les politiques sociales de Kennedy et de Johnson, c'est-à-dire les politiques parmi les plus sociales qu'on ait connues dans l'histoire des États-Unis, notamment en faveur des pauvres, des noirs, des discriminations, etc. Et il l'appuie Je dirais totalement. Et il critique la guerre du Vietnam. Pendant ce temps-là, la société du Mont-Pèlerin est horrifiée par les politiques de Kennedy et de Johnson, qui lui semblent être un dirigisme socialiste épouvantable. Donc ça répond un peu à votre question. Quand on voit l'évolution de ces personnages, qui certes ont évolué, mais on voit aussi à partir de quoi ils ont évolué. Ils ne se retrouvaient pas du tout sur les mêmes politiques dans les années 60. Et je doute fort, pour revenir à votre exemple, que Lippmann aurait applaudi, un, à une dictature, mais on peut jamais faire parler les gens comme ça. Mais d'autre part, je doute très fort qu'il aurait admiré les performances économiques des Chicago Boys. Donc je pense que là, c'est un très bon test encore pour réfléchir à la fois à la différence des temps, mais aussi à l'hétérogénéité de ce qu'on a pu désigner comme néolibéralisme.
Est-ce que le néolibéralisme, depuis une quarantaine d'années, disons, est devenu monolithique, alors que tous vos travaux nous montrent que cette expression et cette notion qui naît dans les années 30-40, 1930-1940, ne l'était pas. Est-ce que désormais nous avons quelque chose de plus net, de plus ultra, j'assume.
Une des évolutions, c'est ce dont on parlait au début avec Trump, une des évolutions, à mon avis, les plus remarquables dans l'histoire du néolibéralisme, c'est qu'on a toujours eu un néolibéralisme de la concurrence, libre et non faussée, si vous voulez, typiquement européenne. Mais on avait une ligne à l'intérieur même de Chicago. Dans les années 47, Chicago était proche des Allemands, politique concurrentielle très rigoureuse. Et à l'intérieur même de l'école de Chicago, et parmi les intellectuels trumpistes, vous avez eu de plus en plus une justification des monopoles. Or, c'est fascinant, parce qu'au départ, aussi bien Lippmann que les ordolibéraux, les cartels, les monopoles, c'est ce contre quoi il faut lutter. Et les relations incestueuses entre l'État et les puissances privées, c'est ce contre quoi il faut lutter. Or là, on a évidemment un scénario tout à fait différent.
Vous aurez le dernier mot, Vincent Valentin. Ce mot néolibéralisme est-il aujourd'hui infidèle? Je ne parle pas seulement de l'usage ignorant, mais à la complexité de la notion. Au début, dans les années 30-40, c'était très complexe, il y avait beaucoup de débats. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est beaucoup moins hétérogène et riche.
C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est une galaxie d'auteurs qui ont en commun de défendre la liberté individuelle et l'économie de marché, d'abord contre le danger totalitaire, faut pas l'oublier, et puis progressivement face à l'État-providence, et puis après la chute de Berlin, il y a quelque chose de différent. Donc il y a un point commun, mais après les approches sont très différentes. Il y a des gens qui insistent sur le juste, qui font un retour au juste naturalisme, comme Nozick ou comme Rothbard. Il y a des gens qui restent dans la sphère strictement économique, qui défendent le rôle d'une banque centrale. Donc, et il y a des approches différentes. Il y a une approche juste naturaliste, une approche utilitariste. Certains sont plus ou moins radicaux. Certains considèrent qu'il faut accepter la démocratie, d'autres la critiquer. Et si vous voulez, les grandes avancées, il me semble, sur le plan conceptuel, la grande nouveauté d'un nouveau libéralisme, si vous voulez, sont plutôt dans le sens d'une radicalisation individualiste avec le libertarianisme, avec l'anarcho-capitalisme. Mmh. Et la ligne de fuite, si vous voulez, c'est, à mon avis, c'est d'arriver à une dissolution du politique dans l'économie. Et cette dissolution explique précisément l'aveuglement face aux dictatures. C'est-à-dire que la politique, c'est le mal, quoi. Donc, si on étend les mécanismes économiques de concurrence et de liberté individuelle à toute la sphère sociale, eh bien, tout est pour le mieux. Et tant pis s'il n'y a pas de pouvoir politique. Je pense que le vrai sens du néolibéralisme, c'est de récuser l'emprise de la société, l'emprise du pouvoir politique sur la société. C'est ce qui donne une unité. Voilà. Après, bon, on n'a pas le temps ici, mais évidemment, aujourd'hui, il y a un usage médiatique du néolibéralisme qui confine à la folie douce, puisque on ne sait plus ce que c'est, si ce n'est une façon de désigner le mal, quoi, si vous voulez, de désigner ce qu'il faudrait combattre.
I feel so good. Come payday, I think of all the things I'm gonna buy when I pick up my pay, don't you know? But then they hand me that little brown envelope. I peep inside, Lord, I lose all hope. 'Cause from those total wages earned down to that net amount that's due, I feel a painful sense of loss between the two. Federal tax. There goes that bracelet for her arm.
County tax.
There goes that new fence for my farm.
State income tax.
There goes that brand new Pontiac.
Withholding tax.
There goes the shirt right off my back. You can dream about a honeymoon for two. You can dream, but that's about all you can do. 'Cause by the time old Uncle Sam gets through with you, you can buy her a pair of hose, a little powder for her nose, and take her down to Sloppy Joe's for beer and stew.
Un peu de musique country contre les taxes de l'État et des États, puisqu'on est aux États-Unis. C'est Johnny Cash, After Taxes, une chanson de 1978. Merci beaucoup Serge Audier et Vincent Valentin. Vos travaux très nombreux sont précisés sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au climat, aux problèmes de responsabilité qui sont induits. Voici le pourquoi du comment.
Comment l'atmosphère devient-elle politique? On parle d'atmosphère politique comme on parle de climat politique. Ici, la notion de climat semble abandonner son objectivité scientifique pour peser entièrement sur la subjectivité morale et politique des êtres humains. Quand on parle du climat de la planète, on parle d'un ensemble de lois, de règles qui peuvent changer, qui peuvent même être changées par des actions précises des humains, par exemple la pollution au carbone ou à l'ozone. Et il y a à ce moment-là des causes précises qui transforment le climat. Mais quand on parle de climat politique, il semble qu'on entre justement dans l'effet subjectif de cet environnement global sur les humains. Il ne s'agit plus alors simplement de ressentir l'accroissement de température, mais de sentir une sorte d'atmosphère morale. On se vit dans un climat apaisé, dans un climat violent, dans un climat de justice ou dans un climat d'injustice. Et cette étrange notion subjective alors semble avoir des effets moraux et politiques à part entière. On en vient même aujourd'hui, dans certains discours politiques, à parler de terrorisme d'atmosphère, une sorte d'incrimination générale de certaines communautés qui changerait notre rapport au monde. Et on en vient aussi, dans le droit lui-même, à parler par exemple de harcèlement d'ambiance. On apporte alors la notion de harcèlement non seulement à certains actes, par exemple des violences physiques, sexistes ou sexuelles, ou du harcèlement au travail, mais plutôt un climat général. Et on peut aujourd'hui porter plainte pour un harcèlement d'ambiance dans un milieu professionnel, par exemple. Mais il faut, comme toujours dans ces notions qui mélangent le plus objectif et le plus subjectif, il ne faut jamais passer d'un seul extrême à l'autre, d'un extrême de ces notions à l'autre. D'un côté, la cause globale sur laquelle on n'aurait pas d'action subjective, ce qui est évidemment faux. Le climat politique est une condition pour traiter le changement climatique géoscientifique, pour changer le climat du monde, mais d'un autre côté, dans le climat moral et politique, dans le climat subjectif, on ne peut pas se contenter d'un sentiment d'atmosphère. Quand on parle d'une atmosphère en général, alors on risque de tout confondre et de cibler des responsables, des boucs émissaires qui vont porter la responsabilité d'un changement d'atmosphère. Non, justement, les procès aujourd'hui pour harcèlement d'ambiance montrent que même l'ambiance qui change, qui devient dangereuse, même cette ambiance peut être imputée à des actes ou à des mots précis. Quand on parle de harcèlement d'ambiance, par exemple, ce n'est pas seulement tel ou tel climat social en général qu'on incrimine. Ce sont par exemple des mauvaises blagues, ce sont des traits d'humour, ce sont des petits gestes. Certes, ils ne relevaient pas du droit auparavant, mais ce sont quand même pas non plus des climats généraux et insaisissables, impalpables, des atmosphères purement subjectives, des ambiances au sens philosophique abstrait du terme. Non, quand on parle de climat de harcèlement, on doit pouvoir montrer des actes aussi petits soient-ils, des petits mots qui peu à peu changent la nature du monde et la relation, par exemple, entre les hommes et les femmes. Même le climat en général doit donc être imputable à des choses précises. Même l'atmosphère politique doit être expliquée par des phénomènes précis, par exemple un changement de loi, une société qui a la peine de mort ou une société qui ne l'a pas. Ça change toute l'atmosphère politique. Une société traités dont un président tient des propos racistes ou dont il ne les tient pas, ça change tout le climat politique. Le climat politique n'est pas impalpable, il n'est pas impondérable. Il doit être imputé à des actes précis, aussi petits et parfois gravissimes soient-ils.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Axel Dubois, Armance Bourquin, Chaïma Jibouar et Nassim El-Kabli. Je renvoie aussi sur la question du libéralisme à la série que nous vous avons proposée la semaine du 17 mars dernier. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !